France Inter.
France Inter, il est 13h.
Le 13-14, Kevin Dufraîche.
Merci Nicolas, à demain. Joyeux Noël et bonjour à tous. Sa famille espère un miracle de Noël. Le Kremlin affirme ce matin avoir fait une proposition à la France à propos de Laurent Vinatier, ce Français accusé d'espionnage, emprisonné en Russie depuis juin 2024. La balle est dans le camp de la France, assure il y a quelques minutes le porte-parole de Vladimir Poutine. Communication assez inhabituelle de la part du pouvoir russe. Nous sommes avec notre correspondant à Moscou dès le début de ce journal. La Russie et l'Ukraine, appelées par le pape, a trouvé le courage de dialoguer directement. Appel à la paix de Léon XIV pour sa première bénédiction ce matin, Urbi et Orbi, place Saint-Pierre de Rome. Un petit peu, c'est parfois déjà beaucoup, quelques centimètres de neige en pleine en ce matin de Noël et le bonheur à Lyon.
C'est super joli, même si on ne peut pas vraiment jouer. Et quand les flocons tombaient hier, ça, on avait l'impression que c'était les étoiles qui tombaient.
Je suis d'une génération où j'ai plus vu de neige à Noël. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ça. Voilà, on a l'impression d'un moment suspendu.
Et nous serons aussi avec les travailleurs de Noël, ceux qui rétablissent le courant après les intempéries dans le sud. Et les pompiers mobilisés partout en France. Le président de leur fédération nationale sera notre invité. À 13h30, on passe un coup de fil à 15 000 km de nous. Un petit bout de Noël en mer avec Alexia Barrier, capitaine du premier équipage 100% féminin de l'histoire, a tenté le trophée Jules Verne, le tour du monde à la voile en maxi trimaran. Noël au large, si ça vous parle, appelez-nous, le standard est ouvert, même les jours fériés, 01 45 24 7000. À 13h45, notre feuilleton sur les traces d'Ousmane Dembélé. Il aime quoi le Ballon d'Or 2025 à part le foot? Réponse de son meilleur ami Moustapha.
Lors par exemple de nos virées, quand on faisait Barcelone-Paris par exemple, on a toujours eu l'habitude d'écouter de la variété française, Charles Aznavour, les musiciens, les magiciens, les comédiens.
Charles Aznavour et les autres passions d'Ousmane Dembélé, vous saurez tout grâce à Emma Sarango. Danser la France, on croque à pleines dents le chocolat français. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest vous racontera la renaissance des cacaoyers en Martinique. Et dans cette une chanson, suite de notre semaine spéciale, justement Charles Aznavour, avec Je n'attendais que toi, ce n'est pas la plus connue, mais vous la découvrirez grâce à la chanteuse québécoise Thérèse Montcalm. Voilà le 13-14 de Noël sur France Inter, c'est parti, soyez les bienvenus.
France Inter.
Est-ce le début d'une bonne nouvelle, d'une issue pour Laurent Vinatier, ce chercheur français en prison en Russie depuis un an et demi? Il est accusé d'espionnage, comme d'autres ressortissants étrangers avant lui. Et aujourd'hui, 25 décembre, le pouvoir russe fait savoir qu'il discute du sort du Français avec Paris. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Kevin.
Correspondant de France Inter en Russie, c'est le porte-parole de Vladimir Poutine qui l'a confirmé il y a une heure à peine.
Oui, effectivement, Dimitri Peskov qui a confirmé qu'un contact avait été établi avec les autorités françaises au sujet de Laurent Vinatier, mais, a-t-il tout de suite précisé, je ne peux pas vous donner de détails, on ne connaît donc pas la teneur de la proposition qui a été faite à Paris. Dans la pratique habituelle du Kremlin, en général, il s'agit d'échanges de prisonniers, mais en général aussi, Moscou attend que les prisonniers étrangers soient définitivement condamnés avant de les échanger. Ça avait été le cas, par exemple, avec le journaliste américain du Wall Street Journal, Evan Gershkovitch. Or, Laurent Vinatier, lui, est sous la menace d'un nouveau procès, hein, après sa première condamnation à 3 ans de prison. Il devrait être jugé en février prochain pour espionnage cette fois-ci et en cours une peine beaucoup plus lourde.
Sylvain, est-ce que c'est courant que Moscou communique de cette manière sur d'éventuels échanges de prisonniers ?
Non, toute cette séquence semble très inhabituelle. En général, le Kremlin ne rend pas public ce genre d'affaires. Là, il a choisi délibérément de passer par la voie médiatique en informant dès hier nos confrères de LCI, dont le correspondant avait fort opportunément posé une question à Vladimir Poutine vendredi dernier lors de sa conférence de presse annuelle concernant Laurent Vinatier. « Je ne connais pas ce cas, mais je vais me renseigner », avait alors dit le président russe. La réponse semblait aussi mystérieuse que préparée, comme semble le confirmer la suite de la séquence. La balle est dans le camp de la France dit maintenant Moscou, mais difficile de juger de la sincérité du Kremlin tant qu'on ne connaît pas la teneur de cette proposition. Du côté du Quai d'Orsay, en tout cas, pour l'instant, c'est silence radio.
Sylvain Tronchet, merci pour toutes ces explications. Vous étiez en direct de Moscou pour France Inter. La Russie interpellée directement à l'occasion de Noël par le pape Léon XIV, regrettait mardi soir le fait que la Russie semble rejeter son appel à la trêve pour Noël, trêve dans la guerre en Ukraine. Le chef de l'Église catholique a de nouveau parlé des guerres ce matin à Rome, où nous retrouvons maintenant notre correspondant Bruno Duvic. Bonjour.
Bonjour.
Première année de pontificat oblige, Léon XIV enchaîne les premières fois depuis son élection au mois de mai. Importance toute particulière en ce moment avec les célébrations de Noël. Il a prononcé, Bruno, depuis le Vatican, sa première bénédiction Urbi et Orbi aujourd'hui à la ville et au monde.
Pour appeler à la paix, pour évoquer la situation au Moyen-Orient, bien sûr au Soudan, les tensions politiques en Amérique latine, les catastrophes naturelles en Asie. Mais c'est aussi d'une Europe tentée par le repli sur elle-même que le pape parle, et longuement.
Nous confions au prince de la paix tout le continent européen en lui demandant de continuer d'y inspirer un esprit communautaire et de collaboration, fidèle à ses racines chrétiennes et à son histoire, un esprit solidaire et accueillant envers ceux qui sont dans le besoin. Nous prions tout particulièrement pour le peuple ukrainien meurtri.
Comme le faisait le pape François, Léon XIV évoque aussi les inégalités économiques, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont exploités, sous-payés. Plus tôt dans la matinée, il avait aussi évoqué ces jeunes qu'on envoie à la guerre, à la mort, avec des discours mensongers. On pense à la Russie. Noël dans un monde en tension, mais aussi de rencontres avec les fidèles. Un tour en papa mobile juste avant la bénédiction. Guilhem et sa maman, venus de Toulouse, étaient aux premières loges.
Et là, bah, il est juste devant.
Il a un regard très doux et très sympa. Et c'est vrai qu'on a eu un échange de regards, c'était étonnant.
La matinée se termine par des messages de vœux en une dizaine de langues.
Joyeux Noël, que la paix du Christ règne dans votre cœur et dans vos familles.
Voilà comment ce pape élu juste après Pâques a conclu son premier Noël.
Bruno Duvic en direct de la place Saint-Pierre à Rome pour France Inter. Le pape, vous l'avez évoqué, a aussi dit plus tôt ce matin, pensez, je cite, aux tentes de Gaza exposées depuis des semaines à la pluie, au vent et au froid, a dit Léon XIV. Un discours qui tranche avec le message de Donald Trump. La nuit dernière, le président américain a souhaité un joyeux Noël, je cite, à tous, y compris aux pourritures de gauche radicale, comprenez ses opposants démocrates. Les États-Unis, où par ailleurs la ville de Los Angeles a déclaré l'état d'urgence cette nuit en raison de l'arrivée d'une tempête qui fait craindre de fortes chutes de neige et des inondations. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. L'écart est tellement infime qu'il a fallu attendre 3 semaines au Honduras pour connaître le vainqueur de l'élection présidentielle dans ce petit pays d'Amérique centrale de 10 millions d'habitants. Et c'est Nasri Asfuara qui l'emporte, le candidat conservateur soutenu par Donald Trump. La gauche est donc à nouveau balayée. Elle ne sera restée que 4 ans au pouvoir au Honduras. Et Omar Waman, c'est un pays de plus en Amérique du Sud qui bascule à droite.
Nasri Asfuara, longtemps applaudi par ses militants après l'annonce des résultats. L'homme d'affaires de 67 ans, fils d'immigrés palestiniens, a promis de bien faire et de marquer une rupture. Un retour de la droite dans ce petit pays pauvre d'Amérique centrale, rapidement salué par Washington. Donald Trump avait prévenu que Nasri Asfuara était le seul candidat avec lequel il pouvait collaborer et de menacer de réduire l'aide des États-Unis au Honduras si son favori n'était pas élu. C'est la deuxième fois ces derniers mois que l'administration Trump s'immisce directement dans des élections de la région. En octobre dernier, Donald Trump avait averti que le soutien économique à la Argentine dépendait de la victoire du parti du président Javier Milei aux législatives. Argentine, Équateur, Bolivie, Chili et désormais Honduras, en Amérique latine, scrutin après scrutin, la gauche perd du terrain. Un autre pays dirigé par les forces de gauche est dans le viseur des États-Unis, la Colombie, où une élection présidentielle aura lieu en mai et juin 2026. Le principal parti d'opposition de droite a déjà désigné sa candidate, la sénatrice Paloma Valencia, une fervente soutien d'un dénommé Donald Trump.
Omar Waman, rédaction internationale de France Inter. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est aussi Israël qui rejette ce matin l'appel de 14 pays, dont la France, à cesser l'expansion de ses colonies en Cisjordanie occupée, des projets qualifiés de moralement répréhensibles par ces États. Des gouvernements étrangers ne vont pas restreindre le droit des Juifs à vivre en terre d'Israël, a réagi le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Saar. Ces colonies sont illégales du point de vue du droit international. Le gouvernement israélien de droite et d'extrême droite valide régulièrement ces derniers mois de nouveaux projets d'extension en territoire palestinien malgré les critiques.
France Inter, le 13-14. Kevin Dufraîche.
Près de 2000 foyers sont toujours privés d'électricité dans l'Aveyron aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de deux jours. À cause des chutes de neige assez exceptionnelles pour la saison dans le département, dans l'Hérault. Le courant est rétabli en revanche partout, annonce à l'instant d'Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. La vigilance orange pour crue a été levée ce matin dans l'Hérault par Météo France. Près de 3000 foyers ont été privés de courant en raison des intempéries. C'est donc réglé grâce au travail des équipes d'Enedis qui gèrent le réseau, mobilisées encore aujourd'hui pour surveiller et stabiliser la situation. Adèle Chiron a suivi une équipe hier à Mudaison, tout près de Montpellier.
Un arbre est tombé sur un câble électrique. Les techniciens d'Enedis commencent par sécuriser la zone.
On va se mettre là, dans la nacelle, on sera là-haut.
Ils travaillent les pieds dans l'eau sur une petite route. Alors ils sont équipés de gants et de tapis isolants dès qu'ils manipulent les câbles. Frédéric Faure est le délégué territorial Hérault pour Enedis.
Oui, on a des équipes qui sont spécialisées avec du matériel effectivement qui est adapté. Donc là, typiquement, vous voyez un véhicule à nacelle donc pour pouvoir intervenir sur des câbles qui sont ici, donc des câbles basse tension aériens.
La nacelle monte et Denis, un habitant privé d'électricité, regarde la scène.
Bonjour, Frédéric Faure d'Enedis.
Enchanté.
Normalement, d'ici ce soir...
Pas avant.
On va essayer, on va faire le maximum.
Heureusement, on a un petit poêle à bois.
On compte sur vous. On est là.
Les techniciens, eux, sont sur le pont depuis le week-end dernier, explique Frédéric Faure.
On a 100 techniciens qui sont mobilisés depuis le début de la crise, qu'on avait pré-mobilisés dès qu'on avait reçu les alertes météo. 80 qui sont directement issus du département et 20 techniciens qui sont venus en renfort des départements voisins.
Jusqu'au rétablissement, Enedis a envoyé 3 fois par jour des rapports détaillés aux communes impactées par des coupures d'électricité.
Un reportage d'Adèle Chiron, ici Hérault. Les agents d'Enedis ne sont pas les seuls à travailler, évidemment, en ce jour férié, à l'hôpital, dans les commissariats et les brigades, dans les transports en commun, dans les usines ou les centrales qui ne s'arrêtent jamais, dans certains commerces aussi, les bars et restaurants qui restent ouverts. On travaille et aussi dans les casernes. Bonjour Jean-Paul Bosselan.
Bonjour.
Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, vous-même volontaire en Haute-Savoie, je crois. Merci de nous accorder quelques minutes en ce jour de Noël. Est-ce que vous arrivez à savoir combien de sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires sont mobilisés sur un jour férié comme Noël ?
Alors, sur des périodes de Noël, comme tout au courant de l'année, nous avons des personnels qui sont mobilisés, bien sûr, à la fois dans nos casernes, mais aussi dans nos centres de traitement de l'alerte, qui nous permettent de filtrer et d'engager des moyens adaptés. C'est ces femmes, ces hommes qui servent tout au long de l'année, qui sont mobilisés. C'est des sapeurs-pompiers professionnels avec des sapeurs-pompiers volontaires à 80% des effectifs qui permettent d'assurer les premières alertes immédiates et voire même si nécessaire des renforts comme c'est le cas actuellement dans l'Hérault avec une mobilisation plus importante sur des événements climatiques ou des événements d'ampleur.
Ça fait partie du métier, hein, évidemment, ou du volontariat. Vous le disiez à l'instant, 80% de pompiers volontaires en cette période. Ça fait partie du métier d'être là pour les autres à cette période où la grande majorité des gens donc, se reposent et profitent en famille.
Quand les sapeurs-pompiers s'engagent, ils le font pour aller sauver des personnes, pour aller aider. Et donc forcément, c'est dans l'ADN des sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires qui s'engagent, comme on l'a aussi, par exemple, dans d'autres organisations, notamment les associations agréées de sécurité civile qui travaillent aujourd'hui à côté des pompiers de l'Hérault.
Justement, vous parlez de l'Hérault. Comment ça s'est passé ? Comment on déploie ? Donc, ce sont des pompiers des départements voisins qui sont venus aider au moment des inondations ?
On travaille sur de l'anticipation, c'est-à-dire comme l'été sur les feux de forêt, l'hiver un peu plus aujourd'hui sur des risques d'inondation, voire des risques de chute de neige comme on l'a dans l'Aveyron. Et on suit la météo des risques particuliers. Lorsqu'on sait qu'on a une alerte météo, oui, nous allons anticiper, préparer à la fois bien sûr les personnels, mais aussi préparer le matériel. Ça va être des embarcations pour aller faire des sauvetages, mettre à l'abri les personnes sur les zones inondées. Ça va être maintenant que la crue commence de préparer du matériel de pompage et de nettoyage pour aller aider la population. Donc tout ce travail d'anticipation qui fait vraiment partie de l'engagement chez les sapeurs-pompiers, c'est ce qui nous permet à la fois d'être prêts et de réagir rapidement.
Et il y a les inondations qu'a connu l'Hérault, bien sûr. Il y a aussi le froid en ce Noël 2025. Est-ce que ça implique des vigilances particulières pour le travail des pompiers, le froid, la neige, le verglas?
Ben, à la fois pour les victimes, puisque vous avez quand même le risque de personnes qui soient dans un accident de la circulation, mm-hmm, ou sur une chute sur la voie publique, qui sont exposées au froid, c'est des risques supplémentaires pour la santé, mais aussi pour nos personnels lorsqu'ils interviennent, par exemple sur un incendie, sur des secteurs à des températures négatives, on peut avoir des sols gelés, et forcément ça demande un peu plus d'énergie pour lutter contre le froid en plus du sinistre.
Jean-Paul Bosselan, vous l'avez dit, 80% de pompiers volontaires là, sur cette période. Des volontaires, vous en manquez. Hein. Vous avanciez un chiffre cet été. Il manquerait, selon vous, 50 000 volontaires chez les pompiers d'ici 2030. Comment faites-vous pour essayer de recruter justement plus de volontaires?
L'activité opérationnelle, elle augmente en permanence chez les sapeurs-pompiers. Et elle est accrue aujourd'hui avec le dérèglement climatique. Mmh. On fait des feux de plus en plus importants, on a des risques d'inondation plus fréquents.
Donc les besoins sont plus importants, évidemment.
Et donc, on a besoin de mobiliser plus de personnel. Et clairement, on milite pour recruter plus de sapeurs-pompiers professionnels de manière à monter à plus de 50 000 sapeurs-pompiers professionnels, mmh, et aussi recruter des sapeurs-pompiers volontaires et surtout, c'est surtout faciliter la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. On a à peu près 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. Ce qui est plus problématique, c'est de libérer ce sapeur-pompier, ce citoyen qui s'engage, qui est parfois au travail, parfois à son domicile et qui a besoin de se libérer pour assurer la mission. C'est ce travail sur lequel on se focalise principalement.
Il y a un sous-effectif, j'allais dire, structurel aujourd'hui chez les pompiers.
Le fait que les missions augmentent en permanence, on a besoin de mobiliser plus de personnel. Mmh. On a des hausses d'intervention parfois l'été dans certains secteurs de la France lorsqu'on a des feux de forêt qui mobilisent. Regardez l'Aude cet été, pendant plusieurs semaines, il a fallu mobiliser plusieurs centaines de sapeurs-pompiers. Alors du département bien sûr, mais des départements voisins. Et quand vous envoyez des colonnes de renfort d'autres départements, ça nécessite de réorganiser en interne et d'anticiper, de préparer toute cette réponse opérationnelle, et ça nécessite donc forcément des besoins personnels.
Une dernière question, Jean-Paul Bosselan, est-ce que l'incertitude budgétaire pèse sur les pompiers? Le Sénat a voté l'augmentation d'une taxe pour renforcer vos moyens, mais pour l'instant le budget, on le sait, n'est pas voté. Est-ce que tout ça est de nature à vous inquiéter?
Le financement de nos services départementaux d'incendie et de secours est issu à la fois des communes et aussi des départements. Ces deux collectivités qui sont en baisse de dotation, donc, mmh, forcément, mécaniquement, les dotations baissent aussi pour les corps de sapeurs-pompiers, alors qu'on aurait besoin à la fois d'augmenter, bien sûr, des effectifs, mais aussi du parc matériel et de l'adapter à la mission. Alors oui, forcément, ça fait partie d'un des chantiers du Beauvau de la sécurité civile qui avait été initié à l'époque par Gérald Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et sur lequel on va notamment travailler en 2026 pour réécrire une nouvelle loi de modernisation de la sécurité civile de manière à programmer les prochaines décennies chez les sapeurs-pompiers. Et forcément, les finances sont un des budgets importants dans une période très défavorable.
Merci beaucoup Jean-Paul Bosselan, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, d'avoir été avec nous. On salue bien sûr tous les pompiers mobilisés et courage à tous ceux qui travaillent en ce 25 décembre. Pour beaucoup, Noël est synonyme aussi de privation ou de choix. 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. C'est du jamais vu depuis le début des études de l'INSEE sur le sujet il y a 30 ans. C'est d'autant plus compliqué pour les familles monoparentales monoparentales, en grande majorité, on le sait, des mères célibataires. L'Observatoire d'Emmaüs a mené une enquête auprès de plusieurs d'entre elles sur ce que leur coûte Noël, sur les tensions financières que ça engendre. Mathilde Leroy a rencontré une de ces mamans solo.
Marlène est auxiliaire de vie à temps partiel. Une fois son loyer et ses charges payées, il lui reste environ 200 euros pour vivre. Alors, pour faire quelques cadeaux de Noël à ses deux enfants, elle échelonne ses paiements.
Heureusement, c'est à moins 50% sur des jeux créatifs. Donc, en novembre, j'ai tout de suite pris. Au lieu de 64, ça m'est revenu donc à 36 euros les deux jeux. Et décembre, j'ai fait pour ma fille. Donc, je trouve des astuces, en fait. Et j'arrive à plus ou moins vivre, on va dire.
Et il ne reste plus rien pour le repas de Noël.
Ma famille, ils savent ma situation. Du coup, ils essayent de faire selon mes moyens, quoi. Mais heureusement qu'il m'a dit de ne pas prendre les clémentines et les papillotes, parce que je ne pouvais même pas. Là, je suis à moins de 118. Je vivrai avec ça jusqu'au 26, on va dire.
Des privations dues à la hausse des dépenses contraintes de ces ménages, loyer, électricité ou encore mutuelle. Tarek Daher de l'association Emmaüs.
Dans les ménages qu'on accompagne, il arrive qu'il y en ait qui aient plus de la moitié de leur budget qui est contraint chaque mois par les dépenses obligatoires. C'est parfois des arbitrages bouleversants, c'est-à-dire qu'une mère de famille qui a plusieurs enfants, bah, c'est les plus petits qui auront des cadeaux et les plus grands, bah, ils seront privés pour que les plus petits aient des cadeaux.
Les fêtes supposent ainsi pour ces mères célibataires énormément d'anticipation et d'efforts, conclut l'étude, pour préserver un moment de joie pour les enfants.
Mathilde Leroy, pour ce qui est de la prise en charge des personnes sans abri, le plan Grand Froid est déclenché dans plusieurs départements. Un plan Grand Froid qui ouvre des places d'hébergement supplémentaires en Alsace, dans la Somme, le Nord, en Normandie ou encore en Mayenne. Les prévisions météo complètes et toutes les informations sur cette vague de froid avec Elena Morna. À 13h30, nous parlions en ouverture de ce journal de Laurent Vinatier et de la Russie qui indique avoir contacté les autorités françaises pour éventuellement un échange de prisonniers. Eh bien, la famille de Laurent Vinatier dit à l'instant espérer qu'il puisse être libéré pendant les fêtes. Laurent Vinatier, je le rappelle, est en prison en Russie depuis un an et demi. Pas de match aujourd'hui au Maroc. La deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations commencera demain. Hier, trois nations parmi les outsiders de cette compétition ont remporté leur premier match. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La CAN autour de laquelle les polémiques se multiplient ces derniers jours concernant les billets. Clara Lecoq-Réal, depuis le début de la compétition, certains stades sont ouverts gratuitement une fois que le match a commencé, ce qui donne des scènes assez étonnantes.
Le contraste est saisissant. À peine quelques milliers de spectateurs en début de rencontre et près de 30 000 dans les tribunes au coup de sifflet final. Cela s'est vu ces derniers jours pour des matchs à Agadir ou à Rabat. Et ce sont en fait les stadiers qui ont ouvert les portes, faisant entrer de chanceux passants. Car la pluie incessante en ce moment rebute sûrement quelques supporters à venir dans les stades. Mais il y a eu aussi et peut-être surtout un couac dans la billetterie. Certaines rencontres sont censées se jouer à guichets fermés, mais les billets ont en fait été achetés en gros, en lot, et sont revendus beaucoup trop cher illégalement. Il y a eu avant-hier 8 interpellations à ce propos. En attendant, ces portes ouvertes pour remplir les stades font déjà le buzz dans le pays, sur les réseaux sociaux. Elles sont saluées par les supporters. C'est, disent-ils, la compétition du peuple. Ce qui plaît au Maroc, le Maroc qui veut réussir sa CAN à domicile avant, et c'est un enjeu de taille, avant d'accueillir la Coupe du Monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal.
Clara Lecoq-Réal. Voilà maintenant une nouvelle découverte à propos d'Otzi. Otzi, c'est ce chasseur-cueilleur découvert par hasard en 1991 par un promeneur dans les montagnes autrichiennes à plus de 3000 mètres d'altitude, surnommé aussi la momie des glaces, parce qu'il a été conservé là pendant plus de 5000 ans. C'est à la faveur de la fonte d'un glacier que sa dépouille a été repérée. Depuis plus de 30 ans, donc, Otzi a été observé sous toutes les coutures. On savait qu'il avait de l'arthrose, des fractures et autres maladies. Sophie Bécherel, bonjour.
Bonjour.
Et grâce à une équipe de scientifiques brésiliens, on apprend qu'il était aussi porteur du papillomavirus, le HPV, responsable notamment du cancer du col de l'utérus.
Oui, en fait, ces chercheurs ont étudié deux de nos ancêtres. D'un côté, Ötzi, 5200 ans, de l'autre, Oustichim, 45 000 ans. Ötzi, vous l'avez dit, c'est une des momies les plus étudiées de l'histoire, tant du point de vue génétique qu'anatomique. Il fascine car car ce petit homme d'1m58, âgé d'une quarantaine d'années au moment de sa mort, est réellement intact. Et au-delà de l'analyse du squelette, son ADN est facilement accessible. Oustichim, en revanche, ce n'est qu'un fémur gauche, trouvé dans la province d'Omsk en Sibérie occidentale, mais avec un ADN remarquablement conservé, ce qui a permis le séquençage complet du génome. On sait donc qu'il s'agit aussi d'un homo sapiens, un homme moderne, le plus ancien de Sibérie. Alors dans les deux cas, ce sont les gènes du HPV, le papillomavirus, ce virus ancien aux lignées diverses, que les chercheurs sont allés récupérer et ils ont donc trouvé. C'est plus précisément le HPV 16 qui est apparu, une des souches les plus agressives, classée à haut risque cancérogène pour l'humain. Raison pour laquelle on vaccine aujourd'hui les jeunes, vous le savez. Que dit cette étude de paléogénétique? Eh bien, qui n'a d'ailleurs pas été revue par les pairs, c'est que ce virus a infecté l'homme depuis très longtemps. Ce sont les deux mêmes HPV 16 qui sont présents à 40 000 ans d'écart et dans deux zones géographiques distinctes. Pour ces scientifiques, le papillomavirus circulerait donc depuis des millénaires chez les populations humaines et il n'aurait pas été apporté lors du croisement d'Homo sapiens avec Néandertal comme on le supposait, puisque chez Néandertal, c'est une autre souche qui a été identifiée, le HPV 12. Pour autant, Ötzi n'est pas mort d'une infection au papillomavirus, mais, et ça ce sont d'autres analyses antérieures qui nous l'ont appris, il a été tué par une flèche qui avait provoqué une hémorragie générale.
Merci Sophie Bécherel, l'ADN a toujours autant de choses à nous dire. Nous parlions de l'Hérault tout à l'heure, l'Ardèche et la Drôme sont aussi sortis de la vigilance orange. Cette fois c'était pour neige et verglas. Il a neigé en pleine cette nuit, un tout petit peu, quelques centimètres à peine, juste de quoi donner un joli manteau blanc au réveil pour Noël. Et ça a suffi au bonheur de ses habitants de Lyon, rencontrés tôt ce matin par Mathieu Bonnour.
Les flocons sont tombés pendant la nuit, alors la neige n'a pas tenu partout, mais on en voit sur les voitures, les toits des maisons, sur les hauteurs des pentes de Lyon. Myriam est venue très tôt avec sa fille Anaïs pour ne rien rater du spectacle.
C'est super joli, même si on ne peut pas vraiment jouer. Sur les pelouses, c'est des grands étendus blancs. Et quand les flocons ils tombaient hier, ça, on avait l'impression que c'était les étoiles qui tombaient.
Je suis d'une génération où j'ai plus vu de neige à Noël. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ça. Voilà, on a l'impression d'un moment suspendu.
Devant ce beau paysage, Nicolas a son âme d'enfant qui se réveille.
Il y en a pas assez pour aller faire un bonhomme ou autre. Et ou alors descendre de la Sarra, qui est fermée malheureusement, mais descendre à Luge comme autrefois. On pouvait faire quand j'étais gamin.
Ça fait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de neige le jour de Noël dans la ville. Alors Marianne immortalise le moment. Elle prend en photo les statues toutes blanchies ce matin.
J'adore venir au parc ici. La neige, c'est vraiment un plus magnifique. Et surtout le jour de Noël, ça c'est clair, quoi.
Et il y a aussi beaucoup de Lyonnais avec leurs chiens. Il y en a deux vraiment imposants, tout noirs et bien touffus. C'est Bonnie et Clyde. Karine vient de lâcher leur laisse pour qu'ils profitent.
J'avais envie d'avoir un espace plus grand et tout blanc. Tu s'éclates, c'est la joie. Voilà.
Merci à
Joyeux
vous.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël à vous. Il y a pas mal de curieux qui viennent voir ce joli manteau blanc, mais assez fin, qui risque donc de disparaître assez vite dans la journée.
Noël en blanc et au pied du sapin. J'espère que beaucoup d'entre vous ont été gâtés, que ce soit par le gros cadeau tant attendu depuis longtemps ou par la petite attention qui fait plaisir. Mais l'équipe du 13-14 n'a pas résisté à l'idée de vous faire entendre quelques souvenirs des pires cadeaux reçus aujourd'hui. Florilège dans les rues de Besançon.
C'était un plateau de fromage et je suis allergique aux chèvres.
Plus jeune, un micro-ondes, mon mari, quand c'était le début. Cadeau ménager,
En écureuil en fer forgé, enfin, plutôt de mauvaise qualité. On n'a jamais su où le mettre. Et il s'est retrouvé sur le balcon.
Quelqu'un m'a offert un parfum qui était déjà ouvert. Et en plus, ça ne fonctionnait pas en fait. Donc je ne pouvais même pas l'utiliser, même si je voulais.
J'irais une balance. Quelqu'un aurait pu le mal le prendre, mais moi ça va, j'ai pas mal pris. Pas ouf quoi.
Une espèce de ceinture en coquillage d'une de mes grand-tantes qui revenait d'une destination lointaine. Et c'était très laid. Et en plus, je ne vais pas porter de ceinture en coquillage. Voilà.
Le pire cadeau de Noël que j'ai reçu, j'ai le droit de donner des noms ou... Je suis pas un grand fan de Franck Dubosc et mon petit frère m'a offert un DVD de Franck Dubosc. Je l'ai encore dans le plastique en fait, et j'ai jamais regardé.
Voilà, au micro d'Éléonore Richard ici, Besançon, peut-être qu'il faut maintenant offrir un lecteur DVD à ce monsieur pour regarder le DVD de Franck Dubosc, il n'est jamais trop tard. 13h28 sur France Inter. Dans un instant, la météo de ce 25 décembre, Elena Morna nous dira si le froid résiste au-delà de Noël, puis direction les mers du Sud pour passer un peu de temps avec Alexia Barrier et son équipage 100% féminin, le premier à se lancer à l'assaut du trophée Jules Verne. Tour du monde à la voile, on verra comment se passe Noël sur un maxi trimaran. Si vous voulez nous appeler pour parler course au large, 01 45 24 7000. De la grand voile au ballon rond sur les traces d'Ousmane Dembélé. Dans un quart d'heure, vous découvrirez que le Ballon d'Or 2025 aime les documentaires historiques et Charles Aznavour. Et à 13h50, c'est la France, Marie-Luce Ribaud du journal Ouest Sud-Ouest. Bonjour.
Bonjour Kevin.
Un produit de fête évidemment au menu de votre chronique.
On va parler de chocolat français, du cacao qui revient aujourd'hui dans la campagne martiniquaise alors qu'il avait disparu.
Et il n'y a pas que Ousmane Dembélé qui aime Charles Aznavour. Semaine spéciale dans C'est une chanson avec Frédéric Pommier. Aujourd'hui, la chanteuse Thérèse Moncalme, elle a choisi Je n'attendais que toi.
Je la chantais en spectacle et la réaction du public était aussi forte que celle que j'avais eue en entendant les premières notes. Et puis si je la fais pas en spectacle, je me la fais demander à tout coup.
La chanteuse québécoise que vous entendrez juste avant 14h.
France Inter présente Femmes d'exception, un livre de Laura Adler. Elles sont françaises, américaines, iraniennes, allemandes.
Je les ai lues, écoutées, aimées. Elles nous ont construites, bouleversées, changées. Je vous raconte l'histoire de 8 femmes engagées qui ont marqué le XXe siècle.
Femmes d'exception de Laura Adler, un livre France Inter.
Le temps de cette journée de Noël.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elena Morna.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Ah voilà, s'il y avait un Oscar de la météo de Noël, ce serait la France qui le remporterait ?
Le scénario est parfait, même Hollywood n'aurait pu faire mieux. Soleil, neige, émerveillement des enfants au réveil, re-soleil, chocolat ou vin chaud, avec modération, feu de cheminée pour se réchauffer. Oui, la moyenne nationale est de 4 à 5 degrés cet après-midi, donc il faut se réchauffer. Bref, la magie de Noël, sauf que dans tous les films, il y a forcément quelque chose qui ne va pas.
Ah.
Et là, c'est dans le sud, sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que sur les Alpes du Sud et l'Est de la Corse, sous les nuages, la pluie ou la neige, avec un risque d'avalanche élevé sur les Pyrénées-Orientales.
L'épisode 2 sera moins réjouissant.
Et même inquiétant, la pluie et la neige vont s'intensifier sur le Roussillon et les Pyrénées-Orientales demain, nouvel épisode pluvieux. Facteur aggravant, le vent et les vagues qui empêcheront les cours d'eau de s'écouler. On attend 150 à 200 mm de pluie, 1,50 m de neige sur le pic du Canigou. Météo France devrait placer le secteur en vigilance orange. Fin de l'épisode samedi, une happy end, avec un week-end beaucoup plus agréable.
Merci Elena Morna pour ses prévisions météo.
France Inter, le 13-14, Kevin Dufraîche.
Noël en famille ou en solo, Noël à la maison ou chez papy et mamie, Noël au ski, Noël au travail ou au coin du feu, à chacun son Noël. Donc Noël en mer, ça existe aussi, celui des skippers, des navigateurs qui se lancent à l'assaut des mers pour faire le tour du monde. Cette année, pas de Vendée Globe, c'était l'an dernier, le prochain ce sera à l'hiver 2028-2029. Mais il y a tout de même du sport sur les mers cette année. Bonjour Alexia Barrier.
Bonjour.
Capitaine hein, Alexia Barrier, puisque vous êtes à la tête de cet équipage, le premier équipage 100% féminin à tenter le trophée Jules Verne, c'est-à-dire le tour du monde à la voile, sans escale, sans assistance hein, sur votre trimaran. On va parler de tout ça, évidemment, pour que nos auditeurs puissent situer. Vous êtes où là sur le globe actuellement ?
Alors, nous nous trouvons au sud de l'Australie,
d'accord,
en plein milieu de l'océan Indien, un peu loin de tout, et très près des icebergs.
Vous les voyez ou quand même pas ? Non.
Non, on essaye de ne pas s'approcher trop près quand même.
Ah oui.
J'espère qu'on n'en verra pas, même si c'est majestueux et magnifique. C'est toujours un peu effrayant quand on navigue à la voile. Et le propos, nous, c'est d'aller vite. Pour des sujets d'exploration, ce sera pour une prochaine fois.
Vous avez passé le Cap Lewin il y a quelques heures. En fait, c'est un des caps qu'il faut passer quand on fait le tour du monde à la voile. C'est un des points importants.
Oui, c'est notre deuxième cap. Le premier cap, c'est donc le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique du Sud. Ensuite, le Cap Lewin, c'était notre cadeau de Noël. On était hyper motivés pour arriver le jour de Noël au Cap Lewin. Et le prochain, ce sera le Cap Horn dans un peu plus de 4000 milles dans une dizaine de jours avec la traversée de l'océan Pacifique qui est toujours vertigineuse.
En tout cas, vous êtes à plus de 15 000 kilomètres de nous hein, ici à Paris. Joyeux Noël donc, Alexia, et joyeux Noël,
Noël.
À tout l'équipage. Comment ça se passe pour vous ? Est-ce que vous avez pu fêter un petit peu ce Noël ? Comment vous vous êtes organisé à bord ? Vous êtes 8, hein, je le rappelle.
Ouais, on est 8 à bord, donc on a entre 23 et 52 ans. Il y a 7 nationalités. Autant vous dire que les différences culturelles, ça amène beaucoup de couleurs et de peps dans ces moments de fête où on chante chacune dans notre langue. Et la plus jeune, qui a 23 ans, c'est la première fois qu'elle fait un Noël loin de ses parents. Donc, il y avait un peu d'émotion aussi.
D'accord.
On est loin de tout, on est loin de tout le monde. Mais ça ne nous empêche pas à penser à nos proches, aux gens qui nous suivent. Après, c'est vrai qu'on a aussi une vie un peu monacale parce qu'on est imposé par le rythme du bateau et de la météo de faire des réglages, trouver du temps pour se reposer, pour manger, etc. Cependant, le Père Noël est passé à bord et on a reçu nos cadeaux.
Ah, très bien.
On n'a pas encore ouvert parce que je ne sais pas pourquoi on traîne vachement là, pour ouvrir nos cadeaux. Moi, j'ai trop hâte de les ouvrir. J'espère que voilà, ça ne va pas.
Vous retardez un peu Noël, alors vous faites durer le plaisir ou l'attente.
C'est ça exactement. Pour pas que la journée soit trop longue, on se donne des petits moments de réconfort comme ça pour rythmer la journée. Et c'est assez chouette. L'ambiance à bord est sympa parce qu'on est ensemble, loin de nos proches, mais on est vraiment ensemble et on voit la force du collectif dans ces moments voilà, où on est loin de chez nous, aux périodes des fêtes, dans un milieu hostile parce qu'il fait à peine 5 degrés.
Ah oui, il fait très très froid sur le bateau.
Assez grande. Et hier, on s'est fait attraper par un filet de pêche dérivant. Donc, on est passé de 30 nœuds, ceux qui connaissent pas trop la voile, de 60 km/h à zéro dans le foil, qui est un appendice du bateau, qui dépasse des flotteurs. Et donc, ça a été voilà, un moment un peu choquant parce que quand on passe de 60 km/h à zéro, bah, tout le monde évidemment tombe dans le bateau et heureusement, personne ne s'est fait mal.
Ouais.
Mais ça nous rappelle que même si c'est les fêtes et qu'on est contente de, voilà, de célébrer, il faut qu'on reste concentré parce qu'ici, tout peut arriver. C'est les éléments qui mènent la danse.
Noël ou pas, c'est la mère qui décide. Je voudrais vous faire écouter un de vos illustres collègues, j'allais dire. Charlie Dalin, le vainqueur du dernier Vendée Globe, il nous a envoyé une petite note vocale pour nous raconter son Noël en mer à lui aussi.
J'ai passé deux Noëls en mer, à chaque fois c'était sur le Vendée Globe. Bah, c'est pas un jour au final de fête, moi en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, d'être seul loin de ma famille. Voilà, c'est plutôt des moments où j'ai eu des petits coups de blues sur mes Vendée Globe. Voilà, le premier n'a pas été arrangé par mon choix culinaire, parce que j'avais un cassoulet industriel. C'était quand même pas super comme plat. Bon, après, je me suis remonté le moral avec plein de petits cadeaux légers toujours, hein, pour pas ralentir le bateau. Et sur mon deuxième Vendée Globe, bah, j'ai essayé de relever un peu le niveau du repas de Noël. Donc, voilà, j'ai un chef étoilé, le chef Garin, qui m'a préparé une queue de homard. Au final, ça fait une moyenne à peu près correcte. Donc pareil, petite baisse de morale ce jour-là. Mais voilà, un moment sympa de déballage de cadeaux. Voilà, en montant plein nord vers la maison.
Voilà pour les souvenirs de Charlie Dalin, élu marin de l'année hein, cette année. Alexia Barrier, qu'est-ce que vous avez mangé, vous, à bord? Est-ce que vous avez mangé un petit quelque chose de particulier pour ces fêtes?
Oui, on a chacune a pris un plat lyophilisé. Alors, ce n'est pas la folie, hein, mais un plat lyophilisé qu'on adore. Moi, c'était un risotto aux champignons.
Ah, très bien.
Et c'était super bon. Et pauvre Charlie, chouchou, il m'a presque mis le blues là avec... C'est sûr qu'en solitaire, c'est vraiment différent d'être en équipage quand on est tout seul sur un bateau.
Oui, j'allais vous dire, sur le Vendée Globe, évidemment, le tour du monde en solitaire, c'est le principe. On sait qu'on va être seul pendant des semaines et des semaines. Vous êtes avec, j'allais dire, une famille de substitution, celle que vous vous êtes choisie aussi, puisque cet équipage, vous l'avez choisi.
Oui, on a réussi à faire un groupe où la bienveillance et la bonne humeur sont les maîtres mots. Et c'est vraiment chouette. Après, comme dans toutes les familles, parfois ça grince et ça s'engueule un peu, mais ça passe très vite. Parce qu'on a toutes, je pense, le sentiment de vivre quelque chose d'exceptionnel ensemble. Et du coup, ça donne de la force au collectif. Puis on a un peu l'impression, comme on veut être les premières femmes à boucler un tour du monde sans escale et sans assistance dans l'histoire de notre sport, de faire quelque chose qui est plus grand que nous. Donc ça aussi, ça rassemble.
Je ne trahis pas de secret en disant que pour l'aspect sportif, pour battre le record de ce trophée Jules Verne, pour vous, ça va être un petit peu compliqué. Vous avez eu des soucis techniques, vous avez eu des soucis de fixation de grand voile notamment. L'important pour vous, aujourd'hui, je le disais, c'est cet équipage 100% féminin. L'important pour vous, c'est de terminer. Vous êtes bien parti de toute façon pour le terminer, ce Tour du Monde.
Ouais, le terminer, c'était l'enjeu premier dès le début. ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de femme en trimaran, en multicoque. Donc, on part de loin, on va peut-être pouvoir se comparer presque aux femmes dans la Formule 1 où il n'y a pas de représentation sur ce type de bateau. De finir, c'est déjà historique. On va écrire une page de l'histoire de notre sport, établir un record du monde féminin qui n'existe pas. Et ça aurait été bien culotté que de battre le record de Francis Joyon à la première tentative, mais on l'a tenté quand même. C'est sûr qu'on n'aura pas le trophée Jules Verne, mais on se bat pour arriver le plus vite possible, faire un temps acceptable pour établir ce record du monde et revenir, pourquoi pas dans 2 ans, pour faire mieux.
Et d'une certaine manière, quoi qu'il arrive, en terminant ce Tour du Monde, vous allez marquer l'histoire. Vous serez les premières, quoi qu'il arrive.
Les premières à jamais, comme disent les Marseillais. c'est la, montrer aussi la place des femmes dans la performance, de prendre sa place et créer ses opportunités pour réaliser des grands projets. Et c'est ce message inspirant aussi qu'on veut donner. Mmh. Et grâce à une aventure humaine hors norme, j'espère qu'on arrivera à faire bouger les lignes de notre sport et les lignes de la société grâce à ce Tour du Monde.
On peut les citer peut-être vos coéquipières, parce que on vous connaît, Alexia Barrier, vous êtes française, mais vous le disiez, il y a plein d'autres nationalités. Est-ce que vous pouvez nous citer votre équipage ?
Avec grand plaisir. Alors, ma co-skipper, c'est Dick Afari. Dick Afari, elle a fait 6 fois le Tour du Monde à la voile, 2 fois en solitaire. C'est la seule femme qui a fait le Tour du Monde à l'envers et à l'endroit. En solitaire, sans escale et sans assistance, c'est une légende. Après, on a Stacey Jackson, qui est une Australienne. Elle, c'est la légende de l'hémisphère sud. Elle a fait 27 Sydney Hobart, pour ceux qui connaissent un peu le bateau. Uh-huh. C'est juste dingo. On a Tamara Etchegoyen, médaille d'or aux Jeux Olympiques. Annemiek Bes, hollandaise, qui est médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et après, les plus jeunes, Molly Lapointe, qui est américaine, elle a 30 ans. On a Deborah Blair, la plus jeune du bord, une Anglaise qui a 23 ans. Et on a une Kiwi aussi, une Néo-Zélandaise, Bex Kmoer, qui a fêté ses 26 ans le 21 décembre à bord du bateau.
Ah, joyeux anniversaire en retard à Bex. Alors, un dernier mot, le Cap Horn, c'est pour quand ? On sait que c'est le moment stressant sur les bateaux, un des points compliqués. C'est pour quand le Cap Horn ?
On a une situation anticyclonique à gérer sur le Pacifique qui ne va pas nous aider à être rapide. On a lancé des paris à bord. Moi, j'ai parié qu'on y serait le 6. Je pense que j'étais comme toujours un petit peu trop optimiste. On y sera peut-être que le 10, mais on va se donner toutes les chances pour que je puisse gagner mon pari.
Merci beaucoup, Alexia Barrier, d'avoir passé un peu de temps avec nous sur France Inter. Bonne route, à très bientôt. On vous rappellera évidemment.
Merci infiniment. Bonne journée.
Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt dans la journée. Et bonjour Antoine Grenapin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste de la course au large, co-auteur entre autres de Vendée Globe, Les Aventuriers du Grand Sud. Noël, c'est un peu l'épreuve ultime pour le moral des skippers pendant un tour du monde.
Et c'est vrai que c'est drôle d'entendre Alexia, d'entendre son sourire et sa joie. Elle l'a dit, c'est forcément plus facile en équipage, mais il y a toujours un petit moment où on se rappelle, où on sait qu'on est un petit peu loin des proches, qui souvent ont fait des cadeaux, qui souvent ont fait des petites attentions. Mais c'est peut-être là qu'on sent, oui, l'éloignement de la Terre et des choses de la Terre.
Justement, je voudrais qu'on écoute un autre navigateur qui est en course actuellement. Thomas Coville nous a envoyé une petite note vocale. Lui aussi, il tente le trophée Jules Verne avec son équipage, il est dans l'Atlantique en ce moment.
C'est un tour du monde où Cathy m'avait emballé un foulard, et dans son foulard, il y avait du parfum. Et comme en mer, il n'y a vraiment aucune odeur, c'est très aseptisé, c'est un grand désert, la mer, donc le parfum qu'elle avait mis et qui s'était dégagé dans la cabine, et que j'avais porté à mon visage, ça m'avait pris mais les tripes, j'avais été parti d'une émotion, j'avais pleuré, ça avait été un truc de zinzin. J'avais trouvé ça très subtil, très beau, quelque chose de rare et précieux. Je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël à tous.
Et joyeux Noël aussi à Thomas Coville et son équipage. Antoine Grenapin, c'est assez fou ce souvenir que raconte Thomas Coville de ce parfum. Parce que c'est vrai qu'en mer, on ne sent rien, il n'y a plus d'odeur en fait.
En fait, c'est, toutes les perceptions sont brouillées. Faut s'imaginer les embruns, du sel, la répétition des efforts aussi. Progressivement, on finit par perdre tout repère. Alors, c'est bien sûr un repère temporel, mais c'est aussi le repère des sens, le repère du goût et de l'odorat. Et c'est vrai que Thomas le décrit très bien.
Pour ce qui est des courses, Antoine Grenapin, est-ce que vous avez souvenir, vous, un exemple ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont jouées justement au moment de Noël ? Est-ce que des avaries ou à l'inverse, des bonnes surprises ?
Alors, ça arrive parfois. Vous aviez Alexia au téléphone tout à l'heure. Le premier Vendée Globe, le seul qu'elle a fait, ouais. Elle avait eu une avarie le jour de Noël. On a peut-être un petit peu plus d'énergie pour résoudre les problèmes quand il y en a. Mais en tout cas, les trois quarts, alors, généralement, ils sont dans les mers du Sud, exactement comme elle et comme Thomas Coville bientôt. Ouais. Généralement, on arrive à allonger la foulée et puis peut-être qu'on se ménage un petit peu parce que on n'aime pas trop avoir de problèmes le jour de Noël et on le comprend bien.
Et pour finir, Antoine Grenapin, une dernière question. Pourquoi, en fait, on part à ce moment-là pour les Tours du Monde à la voile ? Parce qu'il y a tout le temps des Noëls en mer. Le Vendée Globe, ils sont tous en mer à Noël.
Totalement. Alors, la raison, elle est très simple. C'est la météo dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Là-bas, en gros, c'est l'été austral. Alors, ça veut dire qu'en gros, il y a très peu de risques. Enfin, il y a moins de risques de tempêtes. Le risque est moins conséquent. En revanche, bien sûr, c'est de la théorie. Il y a toujours des zones un petit peu délicates, mais un petit peu moins que le reste de l'année.
Voilà pour l'explication. Merci beaucoup, Antoine Grenapin, d'avoir passé vous aussi un petit moment sur France Inter en ce jour de Noël. Joyeux Noël à vous et bonne fête.
Merci, joyeux Noël à tous.
Et puis à bientôt sur France Inter. On vous donnera évidemment des nouvelles du parcours d'Alexia Barrier sur ce trophée Jules Verne et aussi de Thomas Coville. Voici notre feuilleton. Et lui, il a remporté l'un des plus beaux cadeaux de sa vie le 22 septembre dernier, Noël en avance, pour Ousmane Dembélé, le joueur du Paris Saint-Germain. Sacré ballon d'or, meilleur joueur de foot de l'année 2025. Et cette semaine, nous sommes sur ses traces dans notre feuilleton grâce à Emma Sarango, qui pour ce quatrième épisode a demandé aux proches d'Ousmane Dembélé qui il est en dehors du football.
Ousmane, c'est quelqu'un qui déjà est très casanier. Il faut vraiment avoir quelque chose d'intéressant à lui proposer pour le tirer dehors. Il aime bien les documentaires, s'enfermer à la maison, surtout quand il fait un temps assez gris. Alors là, on est persuadé de ne pas le voir dehors. Il s'enferme à la maison, il se met un documentaire.
Quel type de documentaire ?
Il aime bien l'histoire, les grands dictateurs, etc. Il aime bien... Alors moi, je suis Mustapha Diatta et je suis l'ami d'enfance à Ousmane. À l'école, c'était pas un génie, mais l'histoire, il était captivé par ça. C'est quelque chose qu'il aimait bien.
Moi, j'aime trop les documentaires, tu vois, sur Arte, sur le passé, sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, je
kiffe. Mais t'as toujours été intéressé par ça ?
Ouais, toujours.
J'aime bien la variété française, du Charles Aznavour, des lors, par exemple, de nos virées, quand on faisait Barcelone-Paris, par exemple. On a toujours eu l'habitude d'écouter de la variété française et les chansons d'avant, les anciennes musiques françaises pendant la route. Et...
Il chante, connaît par cœur ?
Ah oui.
C'est laquelle sa préférée ?
Celle de Charles Aznavour, les musiciens, les magiciens, ouais. Les comédiens.
Bien voir les musiciens. Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les
comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Ça, il aime beaucoup, beaucoup cette musique.
Et dans un vestiaire, alors, il est comment, Ousmane Dembélé ?
Arrête de me filmer ! Ousmane
Dembélé ! Lucas Hernandez, vous qui le fréquentez à la fois au PSG et en équipe de France.
Non, Ousmane aussi, on le connaît un peu, il est un peu tête en l'air. Des fois, il oublie ses choses, des fois. Il ne sait pas à quelle heure il faut arriver, mais non, à part ça, c'est une personne extraordinaire. Moi aussi, en tant qu'ami, on se voit aussi beaucoup en dehors du terrain, que ce soit pour aller dîner, pour aller manger, pour faire des barbecues. Et du coup, j'aime bien passer beaucoup de moments avec lui et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Je suis Guy Stéphan et je connais Ousmane Dembélé depuis plus de 10 ans. Quand vous m'évoquez son nom, Ousmane Dembélé, je vois son sourire. Voilà. Et je vois les filets trembler.
Dembélé est 3-1 pour l'équipe de France.
Il aime plaisanter, il aime faire des blagues, il aime retrouver ses potes de sa génération ou même un petit peu plus. Voilà, il est très, très agréable dans un groupe et surtout il aime le jeu, il a beaucoup de plaisir à faire ce qu'il fait sur le terrain.
On n'a jamais peur, on n'a jamais peur, défendre nos couleurs, défendre nos couleurs.
Christian Lecoq, moi je suis médecin au Stade Rennais depuis 28 ans au centre de formation.
Moi j'ai un souvenir d'un début de saison où on avait fait, on leur fait des petits topos sur la préparation invisible, sur les étirements, sur l'hydratation, sur le sommeil, tout ce qui est important chez un jeune footballeur. Et je leur avais dit, ben, un jour on fera une interro quand même pour voir. Et Ousmane, il faisait toujours un peu évaporé, je vais dire, il n'écoutait pas trop. Et quand on a fait l'interro, eh ben, il avait quasiment tout bon.
Dernier épisode demain de ce feuilleton sur Ousmane Dembélé, sur les traces d'Ousmane Dembélé. Tous les épisodes sont disponibles sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. On retrouve donc Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, vous nous racontez aujourd'hui un conte de Noël.
Une belle histoire qui va nous faire voyager entre Bayonne, dans le sud-ouest de la France, et la Martinique, où la culture du cacao est en pleine renaissance. Une histoire née dans un rêve, celui de Cora Bernabé. Enfant, elle passe ses week-ends avec son grand-père chéri, devenu agriculteur sur le tard. Une tante historienne découvre que ce domaine luxuriant, où Cora aime tant travailler la terre, a abrité une forêt de cacaoyers. L'idée commence à cheminer. Cora étudie l'agronomie, parcourt le monde agricole caribéen et revient au pays. Aujourd'hui, elle a 35 ans et sous son impulsion, une cinquantaine de producteurs cultivent 130 hectares de cacao martiniquais. Une incroyable résurrection.
Mais alors, comment a-t-elle fait ?
Elle a d'abord su convaincre que le cacaoyer était une richesse ancestrale de cette île. Sous Louis XIV, avec 10 000 tonnes, nous étions, avec la Guadeloupe, les premiers producteurs de cacao au monde, nous dit-elle. Rien à voir avec les 5 millions qui sont aujourd'hui récoltés sur la planète. Mais cette culture avait toute sa place dans le jardin créole. Les cyclones, les maladies, la culture intensive de la canne à sucre et de la banane ont précipité leur disparition. En 2015, avec le soutien de la région, Cora a créé la coopérative Valcaco et le cacao a retrouvé sa place dans l'agriculture martiniquaise.
Une production, Marie-Luce, qui devient rentable.
Si vous avez fait vos emplettes pour Noël, vous aurez mesuré la folle envolée du prix du chocolat. Pendant près de 20 ans, le prix des fèves de cacao était relativement stable. Depuis 2024, les cours se sont envolés, atteignant des niveaux records oscillant entre 6 800 et 10 000 euros la tonne. Le chocolat est un luxe. C'est ce changement de conjoncture qui a favorisé notre essor, reconnaît Cora Bernabé. Certains consommateurs sont prêts à payer pour une filière 100% française, pour de la qualité plutôt que de la quantité. Nous sommes en agroforesterie et chaque cultivateur est rémunéré au juste prix. Certains commencent à en vivre. Dans une île où l'agriculture est en souffrance, le cacao nous réconcilie avec notre terre. Il faut savoir, Kevin, que le cacao est né ici, avec les Amérindiens. Et les fèves martiniquaises renferment des arômes extraordinaires. Elles libèrent des notes boisées, épicées, de fruits à coque, de caramel et de fruits rouges.
Mais vous nous disiez, Marie-Luce, aussi que nous ferions un détour par Bayonne.
Oui, au XVIIe siècle, des juifs maranes, expulsés du Portugal après avoir été chassés d'Espagne par l'Inquisition, y ont trouvé refuge. Négociants, ils ont gardé contact avec l'Amérique du Sud. Ils connaissent les techniques de fabrication du chocolat et répandent leur savoir d'abord au Pays Basque, ensuite dans toute l'Europe. Aujourd'hui, ils sont encore nombreux dans Bayonne à hisser très haut l'art chocolatier. Ronan Lagadec et Cyril Pouille, 40 ans, sont les petits derniers de cet écosystème gourmand. Il y a quelques semaines, avec leur soutien, une fabrique a vu le jour. La Martinique, c'est une victoire. Refait donc son propre chocolat.
Et Monsieur Chocolat nous propose de ne rien perdre de tous les chocolats qu'on reçoit à Noël.
Exactement. Faites-en fondre 150 grammes dans 350 grammes de lait. Ajoutez de la vanille, de la cannelle, de la cardamome, un clou de girofle. En Martinique, on appelle ce breuvage le chocolat de communion. Pour Cora, c'est une madeleine de Proust.
En même temps, la question c'est, est-ce qu'on peut seulement avoir trop de chocolat à Noël ? Pas
sûr. C'est une question.
Merci Marie-Luce Ribaud. Et voici maintenant, c'est une chanson avec la suite de notre semaine consacrée à Charles Aznavour. Aujourd'hui, On réécoute l'entretien de Frédéric Pommier avec la chanteuse québécoise, chanteuse de jazz, Thérèse Montcalm, qui avait choisi d'évoquer « Je n'attendais que toi », une chanson qu'elle interprète elle-même sur scène après l'avoir découverte dans un film « Édith et Marcel » de Claude Lelouch, qui raconte l'histoire d'amour entre Édith Piaf et le boxeur Marcel Cerdan. Charles Aznavour, qui fut à la fois l'homme à tout faire et l'un des paroliers d'Édith Piaf, y tient son propre rôle. Le film est sorti en 1983 et Thérèse Montcalm avait 20 ans.
Dans ce film-là, il y a une scène qui passe très vite, mais qui est tellement belle. Je pense qu'entre les deux, Charles Aznavour et elle, ça se faisait régulièrement de cette façon-là. Quand lui, il y avait une chanson pour elle, c'est soit qu'il lui chantait au téléphone, n'importe où, où il se trouvait dans le monde, pour lui proposer un texte, une musique. Mais là, ils étaient à Paris, à la maison. Et puis, Marcel, son amoureux, était couché à l'étage parce qu'il y avait un combat le lendemain matin. Donc, il fallait qu'il fasse pas de bruit. Et Charles est arrivé avec Édith. Il lui a dit, j'ai écrit une chanson pour toi. Et ils se sont assis au piano. Il a pris une grande couverture. Il a déposé la couverture par-dessus eux. Puis il a commencé à y jouer la chanson et à chanter tout bas. Et la scène dure peut-être 15 secondes, juste assez pour entendre les premières paroles, les premières notes de musique. Et quand j'ai vu cette scène-là, j'ai trouvé ça tellement beau. Puis je me suis dit, ah, pourquoi on n'entend pas toute la chanson au complet? Donc, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé. Et puis, elle m'a jamais quitté.
Je n'attendais que toi, moi cigale en amour, le cœur à la dérive. Aimant au jour le jour, je ne m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives. Je n'attendais que toi pour fleurir mes saisons de phrases éternelles, et dans un tourbillon me dire mille fois que je suis la plus belle. Serre-moi très fort, blotti entre tes bras, je serai sur ton corps comme un noyau qui craque. Au printemps découvert, mes rires en éclats résonneront dans l'air comme un drapeau qui claque. Je n'attendais que toi, en cherchant dans l'espoir la force de survivre. Quand mon cœur était noir, que mon âme avait froid pour commencer à vivre. Je n'attendais que toi.
Je la chantais en spectacle et la réaction du public était aussi forte que celle que j'avais eue en entendant les premières notes. Puis, quand j'ai commencé à venir en France, je l'ai chanté aussi. Puis on m'a demandé de l'endisquer sur l'album Connection. Et puis si je la fais pas en spectacle, je me la fais demander à tout coup.
Je n'attendais que toi, mon cigale en amour, le cœur à la dérive.
Cette chanson-là, pourquoi c'est une grande chanson de votre point de vue?
Mais le texte, je n'attendais que toi, ma cigale en amour, le cœur à la dérive, aimant toujours le jour, je ne m'enchaînais pas rêvant que tu arrives. C'est beau, la musique est belle, la mélodie est superbe.
Est-ce que vous, on vous a déjà dit ça, je n'attendais que toi?
Oui, moi aussi je l'ai déjà dit. Au Québec, il y a une phrase qu'on dit qui n'est pas vraiment du vrai français, mais on dit « une chance qu'on ça ».
Qu'on ça?
Oui, une chance qu'on ça. C'est un peu « je n'attendais que toi », une chance qu'on est ensemble, une chance qu'on se connaît. On a tellement de choses, de points en commun. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je n'attendais que toi.
Vous êtes toujours avec la personne à qui vous avez dit ça?
Oui. Oui.
C'est une histoire qui dure.
Oui, 24 ans.
Tandis que toi, espérant nuit des jours, qu'enfin mes joies s'abreuvent aux sources de ta vie pour y puiser ma foi et me réveiller neuve. Je n'attendais que toi.
Et vous avez eu l'impression d'attendre beaucoup avant de rencontrer cette personne-là?
Ben oui, je pourrais dire ça. J'avais quoi, 38 ans? On a toujours des expériences plus jeunes. Mais quand on rencontre la bonne personne, on le sait.
Je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi. J'espère que tu resteras.
Je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi.
Nous n'attendions.
Thérèse Moncalm avec Frédéric Pommier. Et pour terminer en beauté cette semaine spéciale Aznavour, demain, la bohème dans C'est une chanson.